Bonjour à tous. Voici la grande table confortablement installée dans la cour de l'Université Pasteur à l'occasion du Festival d'Avignon. Un festival qui a choisi cette année pour thème phare les migrations sous toutes leurs formes. D'abord, l'Angleterre. À 13h30, la metteuse en scène et plasticienne Masha Makeyev nous plongera dans le monde de Lewis Carroll à travers une exposition, troubles faites, collections curieuses et choses inquiètes, un livre, Zone Céleste, et un spectacle, Lewis versus Alice. Mais avant cela, cap sur l'Autriche et l'Italie. Aussitôt descendu des planches de la cour d'honneur, le comédien Laurent Poitrenaud devient la voix de Thomas Bernard. Les fictions de France Culture donnent à entendre Mépris littéraire, un recueil de textes de l'auteur sur l'obtention de ses propres prix réalisé par Sophie Aude Picon. Pendant ce temps-là, dans un jardin, une cour de château ou une salle des fêtes, Irène Bonneau nous fait découvrir ce qui aurait dû être un film si Pasolini n'avait pas été assassiné. Le spectacle Amitié donne vie à une odyssée pasolinienne croisée au texte d'Eduardo De Filippo. Irène Bonneau et Laurent Poitrenaud sont aujourd'hui les invités de la Grande Table d'Avignon.
Grande Table d'été.
Bienvenue à tous sur France Culture.
Maëlys Bessery.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une immersion dans une odyssée pasolinienne, Irène Bonneau. Racontez-nous l'histoire d'abord de ce qui n'est que d'un fragment. Ce sont des fragments d'un synopsis.
Oui, Pasolini, dans les années 60, avait eu l'idée d'écrire un conte de Noël parce qu'il voulait refaire un film avec le grand acteur napolitain Toto. Et donc, il avait eu l'idée de faire l'histoire d'un roi mage qui suit l'étoile de Bethléem et qui espère arriver à trouver le Messie. Et le grand producteur italien Dino De Laurentiis lui avait même proposé de produire ça pour la télévision américaine. Et puis finalement, Toto est mort à la fin des années 60 et ils n'ont pas pu faire le film. Pasolini l'a rangé dans un tiroir. Et puis après, il a rencontré Eduardo De Filippo, pour lequel il avait une immense admiration.
Alors, vous racontez un peu l'histoire d'Eduardo De Filippo, qui est moins connu en France, dramaturge, poète.
Oui, il est moins connu, alors qu'en Italie, c'est une sorte de monument national. La télévision italienne retransmet ses pièces le dimanche après-midi, tout le monde les connaît par cœur. C'est le grand représentant de la comédie italienne, et en particulier napolitaine, donc au XXe siècle. Il a commencé sa carrière dès les années 20 en faisant du musical, de la varietà, l'équivalent italien du musical, en écrivant des sketchs, des petites pièces qui étaient des levées de rideaux souvent pour des pièces sérieuses ou pour des films. Et ensuite, il était à la fois acteur, chef de troupe, metteur en scène, auteur, donc il connaissait vraiment le théâtre dans tous ses aspects. Et ces pièces ont été pillées par le cinéma italien. Beaucoup des comédies italiennes célèbres des années 50, 60, comme Mariage à l'italienne, par exemple, avec Sofia Loren et Mastroianni, en vérité, ce sont des pièces d'Eduardo De Filippo.
Alors, Eduardo De Filippo, son ton est largement retranscrit dans Amitié, puisque vous avez décidé de croiser ce qui était dans la vie une rencontre entre deux amis. Il y a eu justement un échange entre, d'un côté, l'idée de ce scénario de départ, et puis d'introduire des scénettes qui existait déjà dans le théâtre d'Eduardo De Filippo.
Oui, parce que c'était le projet de Pasolini, à vrai dire. Il a écrit cette histoire de roi mage en disant à Eduardo, voilà, je t'envoie cette histoire, ce film, je vais le faire pour toi. C'est toi qui joueras le rôle principal, et même le rôle principal, le personnage portera ton nom. A priori, par choix, le personnage c'est toi. Alors j'ai pas encore eu le temps d'écrire les dialogues, dit-il dans sa lettre à Eduardo, mais c'est pas grave parce que les dialogues c'est toi qui les écriras pendant le tournage. Et Pasolini devait commencer à faire les repérages du film au moment où il a été assassiné. Du coup, cette collaboration n'est jamais advenue, n'a pas pu avoir lieu. Alors nous, pour le spectacle, on a essayé de rêver de cette collaboration qui n'a pas pu avoir lieu, qui a été empêchée. Et c'est comme ça qu'on a fait un collage et on a monté des fragments du théâtre d'Eduardo à l'intérieur du récit de Pasolini.
Alors il y a ce ton tragicomique que l'on retrouve, légèrement grinçant. Et alors là, Laurent Poitrenaud, quand on parle de grinçant, vous, dans cette lecture de Thomas Bernard, c'est justement ce à quoi on se confronte. Mais vous, avec une lecture un peu particulière, puisque Mépris littéraire est un texte moins connu, d'ailleurs publié après la mort de l'écrivain.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est assez beau, c'est que c'est... Donc, il parle des moments de sa vie où il a reçu certains de ses prix littéraires. Et on a, en fait, on a le off et on a le in. C'est-à-dire que le off, c'est, bah, c'est tout son récit de, du moment où il reçoit ses prix, avec toute son ironie, sa méchanceté merveilleuse, son humour grinçant.
Sa critique de la société autrichienne.
Critique de la société autrichienne, mais également de lui-même. Et c'est une parole assez libre, assez, assez très très drôle. Et puis de l'autre côté, on a les, le, dans le livre, ils ont édité les discours justement auxquels il fait référence chaque texte.
Alors les vrais discours prononcés.
Les vrais discours prononcés.
Par
et ce
Bernard.
Qui est très beau, c'est, le, c'est l'écart en fait. C'est-à-dire, on, d'un côté dans le off privé, donc une sorte de logoré comme on peut connaître dans ses pièces, qu'on peut retrouver dans ses textes, dans ses personnages. Et puis d'un seul coup, les discours. Quand tu lis son texte en off, on va dire, quand il prépare ces discours-là, on a l'impression que c'est des discours qui, bon, vraiment, il a écrit trois lignes et puis c'est pas trop quoi. Sauf que quand on les lit, ces discours, c'est d'une densité, d'une pureté de pensée, d'une violence, mais au rapport au monde, qui est absolument incroyable. Et donc les deux, c'est comme un chaud-froid incroyable de passer de l'avant. À l'après, quoi.
Voilà. Alors, cette reconstruction, elle a été faite à travers des choix de découpage. L'idée du collage, ça a été de garder des textes dans leur intégralité, de les sélectionner, mais de les choisir en entier.
Moi, je suis là grâce à Sophie Aude Picon, qui a eu une idée incroyable de me proposer ce texte. Moi, je tourne depuis longtemps autour de ce Mas Bernard sans jamais l'avoir lu. J'ai vu ses textes, j'ai lu des textes, j'ai vu ses pièces de théâtre. Et puis, Sophie, quand il y a eu l'idée de le faire entrer pour la radio, elle est venue me chercher. C'est vrai que Sophie a participé. Enfin, c'est elle qui a principalement fait le choix de l'adaptation et des choses. Mais voilà. Mais moi, j'aurais aimé tout lire, hein, mais bon, on peut pas. C'est comme ça.
Vous pouvez peut-être nous en lire un peu. Pas
oui,
tout, mais un peu.
Extrait, un petit peu.
Un petit extrait.
Alors là, c'est dans le texte préparatoire à quand il raconte son prix qu'il a reçu à Brême. C'est vers la fin du texte. Et c'est quand il retourne à Brême. En fait, une fois qu'il a reçu son prix, après, on lui demande de revenir pour siéger au prix suivant. Je suis encore une fois retourné à Brême en lien avec le prix de littérature de la ville de Brême et je ne vois pas pourquoi je tairais mon expérience de ce deuxième voyage brémois. Je siégeais, comme on dit, au jury qui allait désigner le prochain lauréat du prix et dès mon départ pour Brême, j'étais fermement résolu à donner ma voix à Canetti qui, me semble-t-il, n'avait pas obtenu jusque-là le moindre prix littéraire. Peu importe les raisons, mais à l'époque, personne d'autre que Canetti ne rentrait en ligne de compte pour moi. Tout autre choix me paraissait ridicule. C'est autour de la table, tout en longueur d'un restaurant de Brême, me semble-t-il, que le jury s'est réuni. Il y avait toute une série de messieurs habilités à voter, comme on dit, dont le célèbre sénateur Arsem, avec qui je m'entendis très bien. Et je pense qu'ils avaient chacun cité leur favori, qui jamais n'avait été Canetti. Lorsque ce fut mon tour et que je dis Canetti, j'étais pour qu'on donne le prix à Canetti et qu'on récompense ainsi Otto Daffé, sa géniale œuvre de jeunesse qui avait été rééditée un an avant cette réunion du jury. J'avais répété à plusieurs reprises Canetti et à chaque fois les visages autour de la longue table avaient pris un air de souffrance. Nombre des jurés présents à cette table ne savaient même pas qui était Canetti et parmi les rares jurés qui avaient entendu parler de lui, il y en eut un qui, juste après que j'eus répété pour la énième fois Canetti, a dit « Mais lui aussi est juif ». Ensuite, il n'y avait plus eu que des murmures et il n'avait plus été question du tout de Canetti. J'entends encore aujourd'hui cette phrase « Mais lui aussi est juif ». Même si je ne saurais dire qui autour de la table l'a prononcé. Mais encore aujourd'hui, j'entends résonner en moi cette phrase à la provenance particulièrement inquiétante, même si je ne sais pas qui l'a prononcée. Or, cette phrase a étouffé dans l'œuf tout débat sur ma proposition d'attribuer le prix à Canetti. À l'époque, j'avais préféré ne plus participer du tout à la suite des débats et avais observé le silence durant le reste de la séance. Or, désormais, l'heure était bien avancée, et même si entre-temps, j'avais entendu citer toute une ribambelle de noms absolument affreux qui pour moi étaient tous associés au bavardage et au dilettantisme, aucun lauréat ne s'était encore dégagé de la réunion. Les messieurs commençait déjà à regarder la pendule et une odeur de rôti entrait peu à peu par les battants de la porte. La table était donc obligée de prendre une décision. À mon immense étonnement, l'un des messieurs, encore une fois je ne sais plus qui au juste, tira du tas de livres jonchant la table, complètement au hasard me sembla-t-il, un livre de Hildesheimer et dit sur un ton d'une naïveté renversante tout en se levant comme pour aller déjeuner sans plus tarder « Eh ben pourquoi pas Hildesheimer hein, prenons donc Hildesheimer !» Or, Hildesheimer était justement un nom qui n'avait pas été cité une seule fois pendant toutes les heures qu'avait duré le débat. Et voilà que soudainement, le nom de Hildesheimer était tombé et tout le monde remué sur son fauteuil était soulagé et acquiescé au choix de Hildesheimer. Et en l'espace de quelques minutes, Hildesheimer avait été désigné comme le nouveau lauréat du prix de la ville de Brême.
Probablement aucun d'entre eux ne savait vraiment qui était Hildesheimer, mais voilà déjà qu'il transmettait un communiqué à la presse comme quoi le prix avait été attribué à Hildesheimer au bout de plus de 2 heures de délibération. Les messieurs se sont levés et sont sortis pour rejoindre la salle à manger. Le juif Hildesheimer avait obtenu le prix. Pour moi, c'était cela le clou de cette remise de prix. Je ne pouvais pas le passer sous silence.
Laurent Poitrenneau, je précise pour nos auditeurs que vous êtes vraiment en train de lire avec un papier sous les yeux. Je dis ça parce qu'il y a une surprise, c'est ce rythme. On est habitué à un Thomas Bernard tournant, circulant, avec cette parole en boucle comme ça, et peut-être à des lectures théâtrales très lentes, appuyant sur ses ritournelles. Et vous, comme une flèche, dit Sophie Picon en parlant de vous.
Flèche. Ça va, parce que je suis là, je vois dans le public ma réalisatrice. Donc, non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut lire. Mais non, mais je crois que peut-être elle est venue me chercher pour cette fluidité-là. C'est une intuition pure, hein, c'est pas un choix. C'est que moi, quand je lis, on sent que c'est une pensée qui avance et puis il y a une sorte de surenchère permanente, d'énervement, de colère, de drôle. Enfin voilà, moi intuitivement, j'ai pris la vague comme ça, ce qui n'est pas le cas du tout de ces textes. Le vrai discours, par exemple.
La manière dont lui et les livres, vous voulez dire, vous lisez d'une manière différente.
Non, mais même la manière dont le texte est écrit. Moi, vous savez, je suis un acteur assez bête, hein, donc moi, je me dis, un texte est écrit, bête, évidemment, je le pense pas, mais c'est une image.
Mais vous le dites quand même.
Oui, je le dis pour faire comprendre, mais je le pense pas. Mm. Mais c'est parce qu'en fait, les textes, je pense, ont leur propre musicalité, énergie. Et qu'il faut pas chercher midi à 14h. Après, il faut pouvoir le rendre. C'est vrai que les textes off, comme je disais, il y a cette forme de presque écrit au fil de la plume, dans une sorte de pensée vive. Et après, on sent que, mine de rien, les textes lus après, lors de ces cérémonies, sont des textes beaucoup plus denses et qui, d'un seul coup, amènent une densité de pensée et de parole qui n'est pas la même. Voilà.
Alors, à travers, justement, cette colère que l'on ressent, le misanthrope Bernard fait quand même dire à ses narrateurs des propos extrêmement politiques, très marqués par, justement, cette période fasciste qu'il a traversée. Et ces propos, justement, sont présents tout le long des textes choisis dans Mépris littéraire. Cette critique
de toute façon,
d'une société restée très fasciste.
Oui, ça, même maintenant, on peut, pas besoin d'aller, on peut prendre un billet aller-retour, enfin surtout retour pour l'Autriche. On voit bien que Thomas Bernhard, je pense, écrirait à peu près les mêmes textes. Enfin, maintenant, je pense. Jelinek a pris le relais, ne dit rien d'autre. Mais on peut élargir à l'Europe, d'ailleurs, en ce moment. Enfin, moi qui viens de faire la pièce de Pascal Rambert, Architecture, qui parlait de l'Europe de 14-18 jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une manière de raconter notre présent par cette histoire-là, qui, je pense, est une histoire qui active encore notre présent européen, très très fort. Et que Thomas Bernhard était un des chantres de ça. Ouais.
Irène Bonneau, dans justement cette adaptation, si on peut dire, en tout cas cette mise en spectacle du synopsis de Pasolini, il y a cette critique sociale très forte que l'on retrouve dans toute l'œuvre pasolinienne, mais qui est aussi une critique à la fois des relents, des traces de cette période fasciste, mais aussi des modifications socio-économiques de cette société clivée des années 70 notamment.
Oui, absolument. C'est très émouvant de dire ce texte parce que Pasolini fait mine de retrouver l'art du conteur, de raconter une sorte de conte de Noël, un peu bizarre, un peu dysfonctionnel. Mais c'est comme s'il faisait son autobiographie aussi par son roi mage Eduardo interposé. C'est-à-dire, le roi mage part de chez lui et puis il arrive dans la Rome des années 50 où Pasolini lui-même était arrivé quand il avait été chassé de sa région natale à cause de son homosexualité. Et pour lui, la Rome des années 50 représentait une sorte de libération sexuelle, un endroit où il pouvait enfin vivre sa vie comme il le voulait. Et puis ensuite, le voyage continue, mais le voyage n'est pas seulement géographique, il est aussi historique. C'est-à-dire que, de façon invraisemblable, évidemment, après la Rome des années 50, on arrive dans Milan des années 75-76, qui, pour Pasolini, Milan, c'est l'incarnation de la société moderne, de la société industrielle, de la société de consommation, de la télévision, enfin de toutes les choses qu'il détestait absolument.
Et de leur impact sur l'art aussi, sur la manière d'être représenté, puisque Eduardo Di Filippo était aussi admiré de Pasolini pour avoir conservé ce rapport à un théâtre populaire, presque artisanal.
Absolument. Pasolini pensait que le théâtre, dont il se sentait un peu étranger au théâtre, mais il s'y est beaucoup intéressé à un moment donné. Il avait beaucoup d'admiration pour Eduardo, parce que c'était une tradition artisanale, populaire, humble, que nous, on retrouve un peu là, en faisant le spectacle en itinérance, sur des tréteaux qu'on promène dans les villages autour d'Avignon. Et Pasolini voyait là-dedans comme un geste politique, parce que pour lui, les traditions artisanales, dialectales, populaires, c'était une forme de résistance contre l'uniformisation, contre la culture de masse. C'est-à-dire pour lui, le théâtre était avant tout un moyen de résistance contre la culture de masse, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être reproduit de façon technique et qui exige toujours la présence humaine d'une personne sur scène qui raconte une histoire à d'autres êtres humains qui sont devant lui. Et ça, malgré les... Bien sûr, le théâtre, lui aussi, il subit des transformations. On a des moyens techniques aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. On a des projecteurs qui bougent tout seuls. On a des micros, on a de la vidéo. Et c'est intéressant d'explorer ces nouvelles voies. Mais la forme la plus simple et la plus archaïque du théâtre, c'est-à-dire un acteur sur scène qui raconte une histoire à ses frères humains, ça, cette chose-là, elle existe depuis sans doute des milliers d'années. Et je pense qu'elle ne disparaîtra jamais. Et ça, pour Pasolini, c'était un vrai îlot d'espoir, je pense, que c'était une sorte d'utopie concrète, que le théâtre puisse encore exister.
Alors, le théâtre, et puis d'où ce mélange aussi entre un ton comique, plutôt hérité d'Eduardo Di Filippo, et le théorique Pasolini, qui vient quand même questionner aussi l'histoire du christianisme, en reprendre la parabole à travers cette histoire un peu blasphématoire, quand même, Irène Bonneau. Je vous propose de l'écouter. C'est une archive de Pasolini dont nous avons cherché les traces partout. Nous n'avons absolument pas la date, mais bon.
Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous avez déjà un projet précis?
Oui, j'ai des projets. Un film sur la vie de Saint-Paul. C'est un film qui se déroule dans le monde moderne, c'est-à-dire Jérusalem, c'est Paris, Rome, c'est New York, etc. Et c'est un film contre l'Église. Parce que l'Église, c'est l'organisation, et l'organisation, c'est la mort du sentiment. L'autre film, c'est un film sur l'idéologie. Je voudrais faire un film comique, métaphorique, un peu comme Celaccio Cellini, un peu comme Théorème, sur l'idéologie. Le problème que je pose, c'est l'utilité de l'idéologie, le rapport entre l'idéologie et la réalité, etc. Dans mon film, l'idéologie, c'est une comète, et l'homme, c'est un roi mage napolitain qui suit la comète. Et en suivant la comète, il fait expérience de la réalité.
Irène Bonneau, cette comète qui pourtant est raillée aussi dans la pièce, il y a une sorte d'autodérision autour de cette comète qui serait comme une sorte de panneau électrique de motel, elle est aussi réutilisée.
Oui, mais je crois que pour poser Pasolini, ça a toujours été très ambigu. C'est-à-dire, il avait un rapport au christianisme qui était très contradictoire. À la fois, il disait lui-même qu'il n'était pas croyant, qu'il était un intellectuel marxiste et qu'il croyait plus à tout ça. Et en même temps, il était absolument nostalgique du christianisme paysan de son enfance dans le Frioul, des veillées paysannes où on racontait des histoires à des traditions comme la crèche de Noël, les rois mages, etc. Et il a toujours pris ça au sérieux. Il polémiquait dans les années 60 un peu contre tous les brechtiens qui passaient par là, en disant oui, alors maintenant il y a cette mode petite bourgeoise de désacraliser les choses. Moi, au contraire, je veux les resacraliser. C'est-à-dire, je veux m'intéresser aux gens et aux choses les plus, parfois les choses les plus quotidiennes, les plus banales, les plus dérisoires, les plus pauvres, les plus humbles. Et je veux les regarder comme si elles étaient des objets ou des personnes sacrées. C'est ça qui fait beaucoup dans ses films. Par exemple, dans son premier film, Acatone, il raconte une histoire de voyous dans la banlieue de Rome, de proxénètes, de prostituées. Et il envoie dans la bande-son du film la passion de Jean-Sébastien Bach. Et tout d'un coup, on a l'impression que ces personnages de sous-prolétaires, de petits voyous, sont des personnages sublimes, comme le Christ, les apôtres et les personnages du Nouveau Testament.
Donc ça serait plutôt un lien finalement assez populaire, retrouver une trace commune populaire qui serait revisitée par Pasolini plutôt qu'un geste blasphématoire, comme on a pu le dire.
Oui, oui, je crois qu'il n'était pas du tout dans l'idée du blasphème, finalement, même s'il en parle beaucoup dans ses films. Il était dans une sorte de rapport. Il disait lui-même qu'il fallait détruire l'Église en tant qu'institution, mais qu'il fallait retrouver l'Église au sens premier, au sens d'ecclésia, c'est-à-dire au sens d'assemblée du peuple, où il y a quelqu'un qui prend la parole pour raconter une histoire.
Alors, Irène Bonneau, je vous propose qu'on écoute un extrait de la pièce Amitié, que vous nous racontiez cette structure particulière avec l'agencement de pièces de théâtre au milieu d'un synopsis de film.
Nous nous trouvons dans l'obscurité et le silence des profondeurs cosmiques. Dans le fond, sous nos pieds, on peut voir le globe terrestre. On voit les traces rugueuses de la Terre, les taches couleur de plomb que forment les mers, les limites des continents. Ensuite, enfin, comme le globe tourne, naturellement, c'est au tour de la silhouette nébuleuse et rougeâtre de l'Italie de faire son entrée dans notre champ de vision. À ce moment précis, on commence à entendre comme des voix lointaines, des cris, des appels. Il y a même une voix qui chante une vieille chanson napolitaine, très faible à cause de la distance. Nous nous approchons de plus en plus. Et voilà le panorama de Naples vue d'en haut, avec ses ruelles, ses petites places, ses bassies.
Irène Bonneau, racontez-nous, c'est le début du spectacle. On entend la voix de François Chateau. Il y a aussi Jacques Mazeron et Martine Chambachère qui sont dans cette pièce de théâtre. Trois narrateurs qui viennent à tour de rôle prendre en charge le récit.
C'est comme s'ils étaient les trois rois mages, au fond. C'est-à-dire, ils embarquent le spectateur dans un grand voyage. Parce qu'ils partent de Naples en voyant apparaître l'étoile. Alors, ils pensent que ça va être formidable. Ils vont trouver le Messie. Pour eux, c'est comme une sorte d'espérance révolutionnaire. Parce que pour Pasolini, cette étoile, c'est peut-être l'étoile du christianisme, mais c'est peut-être aussi le communisme. Enfin, c'est l'utopie, l'idée de pouvoir transformer le monde, de peut-être arriver à un monde meilleur. Et alors, nos trois rois mages partent de la gare de Naples.
Et ils rencontrent de nombreux personnages. Ils perdent leur temps en route. En tout cas, ils ne perdent pas leur temps, mais c'est un voyage initiatique.
Absolument.
Alors, mêlés par les pièces de théâtre, c'est là où vous nous expliquez, il y a des scénettes d'Eduardo Di Filippo qui viennent raconter des scènes de vie qui représentent en réalité l'existence.
Absolument. C'est-à-dire, ils se trompent de direction, dit Pasolini. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers l'Orient, ils décident de partir vers le Nord. Alors, du coup, ils se retrouvent successivement à Rome, à Milan, à Paris. Et finalement, ils arrivent à Bethléem, mais vraiment à la toute fin du spectacle. Et ils ont perdu beaucoup de temps en chemin. Et quand ils arrivent à Bethléem, il y a un petit Palestinien qui essaye de leur vendre des colifichets et des petites médailles du Christ. Et qui leur dit que oui, le monsieur, il est né, mais ça fait très longtemps.
Le monsieur Messie.
Et il est mort maintenant. Et il est même oublié. Alors du coup, voilà, ils sont arrivés trop tard. Et c'est comme s'ils jouaient des scènes sur leur chemin, comme des comédiens ambulants. Et ce qui est intéressant, c'est que les pièces d'Eduardo, elles aussi, elles rendent hommage toujours à une sorte de savoir-faire artisanal. C'est-à-dire, dans chaque petite pièce d'Eduardo qu'on joue, il y a toujours quelqu'un qui est très fier de son tour de force artisanal. Il y en a une qui est très fière de faire le meilleur gâteau du monde, un autre qui fait la plus belle crèche des quartiers populaires de Naples, un autre qui sait jouer une opérette La Veuve Joyeuse en 10 minutes sans
c'est
rien laisser
de côté. C'est une sorte de
fresque
de l'Italie populaire que l'on voit apparaître à travers justement les scénettes de Filippo.
Absolument, parce que pour Eduardo, cette façon de faire de l'artisanat de façon très humble, mais un artisanat qui touche presque au tour de force, à la magie. Je pense que pour lui, c'était comme une définition du théâtre, en vérité.
Alors, ce que l'on retrouve, c'est comme fil conducteur la musique, plus exactement la chanson napolitaine. Là, on a entendu un extrait avec un lien très fort de Pasolini aussi, même à cette langue, au dialecte. Dans lequel il a un peu écrit.
Oui, alors Pasolini, qui était parfois, même très souvent, aussi violent contre la société italienne que Thomas Bernhard contre la société autrichienne, disait que ce que le fascisme n'était pas arrivé à faire, c'est-à-dire détruire les cultures régionales et dialectales de l'Italie, la télévision et la société de consommation allaient arriver à le faire. Et donc, dans les années 60, il a tiré la sonnette d'alarme en disant « on est en train de vivre une mutation anthropologique, la télévision italienne va produire le fascisme et un fascisme qui sera bien pire que celui qu'on a connu avant. » Et à l'époque, ses copains intellectuels de gauche italiens ne le prenaient pas du tout au sérieux parce qu'il y a le Parti communiste italien, c'était l'époque où on croyait encore au progrès technique, on pensait que c'était bien, que plus on produisait, plus on consommait, mieux ça allait être. Et Pasolini, à l'époque, leur disait « Non, non, mais on court vers la catastrophe. » Et personne ne le prenait trop au sérieux, et aujourd'hui on s'aperçoit que c'était lui qui avait raison, bien sûr.
Laurent Boitrenaud, quand on parle de diatribe, quand on parle d'agacement, il y a à la fois chez Thomas Bernhard les agacements intérieurs, très violents, il y a ce qu'il imaginait être aussi des textes très simples et finalement ne cherchant absolument pas la critique, il y a la mauvaise foi du narrateur, et puis il y a les vraies colères qu'on lui a connues pour les remises de prix.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, ce qui est beau dans les remises de prix, je pensais à ça en écoutant Irène, c'est que là, on a entendu, et puis on va entendre un autre extrait tout à l'heure peut-être, mais sur cette colère, cette diatribe, cette méchanceté, cette impatience comme ça. Mais quand il lit les textes, par exemple, qu'il trouve un peu minable, un peu petit, enfin, il voit pas du tout le problème quand il lit les textes officiels. Ce qui est fou, c'est en fait, c'est comment il quand même. Malgré tout, il fait confiance à l'intelligence des gens en face. Parce qu'en fait, c'est d'une puissance, d'une intelligence incroyable. Je pense que c'est ça qui manque en ce moment, des fois. C'est des intellectuels qui puissent dire, qui sont pas dans la diatribe, mais qui font confiance aux mots, à la langue, à la pensée, pour dire des choses essentielles. Et c'est ça qui, dans les textes officiels, que vous n'entendrez pas ce matin, mais écoutez, c'est quoi, mercredi à 20h, vous les entendrez. Mais c'est ça que je trouve merveilleux chez Thomas Bernhard, c'est que malgré tout ce qu'il dit, il a une foi dans la littérature absolument merveilleuse.
Et en même temps, il y a ce petit pas de côté dont on plus entendu quand on compare à la fois ce qui était écrit avant et ce qui a été dit lors de la remise de ses propres prix. C'est cette distance par rapport à la société qui l'entoure. Il y a la posture du misanthrope, la posture de celui qui va se mettre entre quatre murs, justement, qui est ravi de s'isoler pour parler de cette société-là. Et puis les surprises qu'il a quand il est en société.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense qu'il a un tout petit peu de mauvaise foi, mais en même temps, c'est normal, c'est le jeu. Mais il se dit, mais je vois vraiment pas ce que j'ai dit là, enfin, vraiment pour que ça fasse un tel scandale. Mais effectivement, dans ce qu'il dit, dans les mots, il n'y a pas de mots ordurier, il n'y a pas d'insultes ad nominem. Mais en fait, c'est pire, parce qu'en fait, c'est comme s'il tendait un miroir aux gens qui écoutent, et c'est ça qui devient insupportable, en l'occurrence, dans certains des textes, pour le pouvoir en place. Et ça, c'est que la force de la parole puisse mettre un pouvoir en place dans une telle colère, c'est. Ça donne envie de continuer à faire du théâtre.
Alors, il y a quand même la critique assumée.
Oui, ça, en off.
La critique assumée et la critique qui comprend même un peu de haine de soi, puisque finalement, si on se met à détester ceux qui vous récompensent, alors même qu'on est l'un des lauréats, et que l'on accepte quand même d'être récompensé, alors au bout d'un moment, on est dans une absurdité
totale. Il dit, de toute façon, moi, j'accepte les prix parce que voilà, il y a de l'argent et je ne vais pas me priver. Et donc, je me mets dans le même lot. C'est là où, en fait, il est un peu inattaquable. Il est tout terrain, quoi. Il sort les armes de tous côtés. Donc, de toute façon, à un moment, il se tire lui-même dessus. Donc, il n'y a pas de souci. Il est jamais si bien servi que par lui-même, ouais.
Est-ce que vous voulez bien vous énerver à nouveau un peu?
Oui, alors, attendez. Donc, il y a un petit. Là, c'est un autre prix où, en fait, il a reçu le petit prix d'État. Et en fait, il y a une ambiguïté parce qu'il y a le petit prix d'État et grand prix d'État. Mais là, lui a reçu le petit prix d'État.
Alors, le grand prix d'État étant celui qui récompense l'œuvre.
L'œuvre et le petit prix d'État. C'est censé être pour des plus jeunes gens. « En mon fort intérieur, je pensais que le jury faisait preuve d'une impudence sans borne à mon égard en m'accordant le petit prix d'État, alors que, bien évidemment, je ne me sentais, quitte à accepter la moindre récompense, c'était déjà une question qui me travaillait à l'époque, absolument disposé à ne recevoir que le grand prix d'État et pas le petit. Je pensais que mes ennemis littéraires au sein de ce jury prenaient un plaisir maléfique à me renverser de mon piédestal en me jetant au visage le petit prix. » Les gens qui abordaient le sujet avec moi pensaient tous que j'avais naturellement obtenu le grand prix d'État. À chaque fois, je devais affronter l'embarras de leur dire qu'il s'agissait du petit prix, celui que n'importe quel trou du cul ayant publié quelque chose avait déjà reçu. Et à chaque fois que j'étais obligé d'expliciter aux gens la différence entre le petit et le grand prix d'État, et une fois mes explications terminées, j'avais l'impression qu'ils ne me comprenaient plus du tout. Je répétais sans cesse que le grand prix d'État récompensait l'ensemble d'une œuvre, comme on dit, qu'on le recevait à un âge avancé, et qu'il était attribué par le Sénat des Arts, une assemblée qui se composait de tous les récipiendaires précédents du grand prix d'État. Et j'ajoutais qu'il n'y avait pas que le Grand Prix d'État de littérature, mais aussi celui des beaux-arts, comme on dit, celui de musique, etc. Quand les gens me demandaient qui avait déjà reçu ce Grand Prix d'État, je disais à chaque fois que des trous du cul. Et quand ils me demandaient de citer ces trous du cul, je leur citais toute une série de trous du cul qui leur étaient tous inconnus. Ces trous du cul n'étaient connus que de moi. Et ce Sénat des Arts est donc exclusivement composé de trous du cul. S'enquérait-il, puisque tu qualifies de trous du cul tous ceux qui y siègent. Oui, répondais-je, au Sénat des Arts ne siègent que des trous du cul, à savoir des trous du cul catholiques et nationaux-socialistes flanqués de quelques juifs alibis. Ces séances de questions-réponses m'écœuraient et ces trous du cul, continuaient les gens, font tous les ans élire de nouveaux trous du cul au sein de leur assemblée en leur conférant le Grand Prix d'État. Tout à fait, répondais-je, chaque année, de nouveaux trous du cul sont élus à cette assemblée qui se nomme Sénat des Arts et qui représente un mal inexpugnable et une absurdité perverse au sein de notre État. C'est une assemblée des plus grands nullards et salopards qui soient, disais-je à chaque fois. Mais et qu'en est-il du petit prix d'État, demandait-il alors. Et je répondais que le petit prix d'État était ce qu'on appelait un prix d'encouragement, dont les récipiendaires étaient entre-temps si nombreux qu'il devenait impossible d'en faire la liste. Et désormais, moi aussi, j'en fais partie, disais-je, car on m'a attribué le petit prix d'État en guise de punition. Mais de punition, pourquoi ? Demandait-il, et je ne savais pas quoi répondre. Attribuer le petit prix d'État à quelqu'un qui a passé la trentaine, reprenais-je alors, témoigne d'une grande bassesse. Et pour moi qui ai presque 40 ans, cela relève d'une bassesse monstrueuse. J'ajoutais toutefois que je m'étais juré de faire front à cette monstrueuse bassesse et que je ne songeais pas un instant à refuser cette monstrueuse bassesse. Je ne suis pas disposé à refuser 25 000 shillings, disais-je. Je suis cupide, je suis faible, je suis moi-même un salaud.
Laurent Poitrenaud, vous lisez donc un extrait de Mépris littéraire. Dans ces extraits-là, on retrouve justement la musique de la répétition. Comment est-ce que vous avez travaillé sur deux tons différents, à la fois les textes officiels et les textes introspectifs ?
C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est ce qu'on entend là. Par exemple, il y a un effet de systématisation de, voilà, il adore trop du cul. Je ne sais pas comment ça se dit en autrichien, mais ça doit être très, très agréable à entendre aussi. Il doit y avoir une beauté du mot dans la sonorité. Et donc, il s'amuse à ça. Et il y a une sorte de litanie. Bon, moi, je suis acteur. À un moment, c'est comme de la musique, c'est comme une partition. Je vois ces mots qui reviennent. Je me dis, je pense pas que ça soit intéressant de les faire sonner différemment à chaque fois. C'est justement de les faire sonner comme une note qui revient, qui fait qu'il donne cette scansion presque. Ce qui n'existe pas du tout dans les textes officiels. C'est une pensée beaucoup plus sourde, beaucoup plus lente, beaucoup plus déployée. Et donc, à ce moment-là, ça demande un autre souffle. Et on s'adapte. On adapte son instrument à cette partition.
Alors, il a été question éventuellement de scie musicale pour accompagner ça, pas de chanson napolitaine ni de chanson autrichienne, mais éventuellement de scie musicale.
Il semble que ça soit toujours d'actualité et la scie musicale pour Thomas Bernhard, je pense, est une idée merveilleuse. Merci. Sophie.
Alors, à travers la critique officielle et de tout ce qui est académique, il y a aussi la critique de l'État qui revient et qui même fait scandale dans ce texte.
Oui, mais ce qui est très beau, je ne vais pas tout vous révéler, mais ce qui est très beau, c'est quand... parce que vraiment, ça fait un scandale énorme. Le ministre de la Culture se lève, claque, tout le monde sort de la salle, il ne se retrouve plus qu'à quatre à la fin dans la salle. Et quand tu lis le texte, encore une fois, il n'y a pas d'attaque ad nominem, il n'y a pas de choses, voilà, l'État tel, il n'y a pas de non-cité, il n'y a pas... Comme on pourrait entendre plus sur des discours actuels, on va attaquer ad nominem. Non, non, pas du tout. Il parle très haut, c'est très beau, il parle de l'espace, là, on parle de l'espace avec François Château tout à l'heure, mais c'est ça, il part dans les hauteurs. Il parle du monde, il parle de la politique, mais au sens très large, il parle de la mort, enfin vraiment que des termes extrêmement forts philosophiquement parlant. Donc il n'y a rien de... Et en même temps, c'est absolument redoutable. Et là où tu te dis que quand même il était fort, c'est qu'en face, c'est insupportable à entendre. Parce qu'ils sentent bien que... Je pense qu'ils ne comprennent pas tant l'attaque précisément intellectuelle de Thomas Bernhard, mais ils sentent que ça va au-delà de la simple attaque genre on n'est pas d'accord. Et c'est ça qui est insupportable, c'est qu'ils sentent que c'est encore plus violent que ce qu'ils avaient pu imaginer. La puissance des mots, c'est ça qui est merveilleux.
Et en même temps, lui-même est contaminé par cette société, y compris cette société économique qui se développe, capitaliste, puisqu'il raconte cette histoire d'agent immobilier qui va réussir par une litanie un peu similaire à sa litanie à lui, finalement en répétant les mesures idéales, ah oui, les proportions.
Ces pièces ont des proportions idéales.
À le convaincre d'acheter.
Et je crois que c'est plus le terme exact, mais c'est proportions idéales. Le vendeur, parce qu'à un moment, il décide d'acheter une maison pour s'enfermer, devenir un ermite. Et il l'emmène dans une ruine, mais vraiment c'est décrit comme une ruine. Il y a quatre murs, un toit qui est pourri, des planches pourries, mais il trouve ça génial. Et le mec, il disait, à chaque fois qu'il rentre dans une maison, il disait, c'est vraiment les proportions, je trouve que c'est les proportions idéales. Et lui, à un moment, ça devient une litanie, et à la fin, c'est lui-même quand il rentre dans une maison, ah oui, je trouve que ces proportions sont idéales. Cette maison est idéale. Ces proportions sont idéales. Et il achète la maison au bout de 15 minutes.
Donc c'est-à-dire qu'il est complètement aveuglé.
Ah, il devait visiter 20 maisons, ils en visitent qu'une, c'est le brouillard, et c'est pas le paysage qu'il y a autour. La maison est en ruine, il y a du foin pourri partout, le plancher. Et en même temps, il dit les proportions sont idéales et il signe. Et c'est évidemment, ça le met dans une angoisse existentielle terrible.
Irène Bonneau, dans la critique pasolinienne que l'on retrouve dans le spectacle Amitié, on retrouve un croisement entre les thématiques habituelles pasoliniennes de critique de la question des normes, du rejet, mais il y a aussi tout le discours d'Eduardo De Filippo à travers ses scénettes, qui est aussi un discours sur la mort, ceux qui pensent détenir la morale, la sœur qui cache la mort de la femme, etc. Il y a ces deux morales-là qui se superposent.
Oui, on a l'impression que Eduardo est presque plus désespéré que Pasolini, en vérité, parce que Eduardo a la réputation d'être un grand auteur de comédie, et pourtant, et ça c'est très napolitain, c'est-à-dire que la mort est omniprésente dans ses pièces, et c'est ça qui m'intéresse très souvent au théâtre, c'est que à un moment, on ne sait plus très bien s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer, c'est-à-dire que le tragique et le comique sont vraiment réunis d'une seconde à l'autre, on peut avoir les larmes aux yeux, et puis après rire d'une situation qui pourtant peut paraître morbide ou macabre. On a l'impression que Eduardo décrit les relations entre un frère et une sœur, entre une femme et son ex-mari, entre des comédiens qui veulent se faire engager par un directeur de théâtre, une relation aussi entre un père de famille qui essaye de maintenir la tradition de la crèche de Noël, et puis tout le reste de la famille, ils en ont plus rien à faire de ces histoires de crèche, parce qu'il y a le monde moderne qui avance. Et Eduardo décrit ça avec beaucoup de cruauté et beaucoup de précision. Et du coup, on a l'impression...
Pour critiquer les liens familiaux par la même occasion, hein, le lien mère-fils, des thématiques qui existent aussi dans le cinéma de Pasolini, dans Théorème.
Absolument. Mais alors, c'est comme si Pasolini, peut-être parce que c'était quelqu'un qui était, comme on l'entendait tout à l'heure, parler d'idéologie et de réalité, c'était quelqu'un qui avait aussi une formation marxiste, tout ça, qui s'était engagé dans le Parti communiste italien dans sa jeunesse. Donc, il avait d'ailleurs été exclu à cause de son homosexualité. Et du coup, chez Pasolini, il y a toujours la pensée de l'utopie qui est là. C'est-à-dire, il y a toujours la pensée d'une espérance qui peut-être est une connerie, mais en fait, c'est cette connerie qui permet de vivre aussi. Alors que, d'une certaine façon, Eduardo est encore plus désespéré, lui, parce que Eduardo décrit les quartiers pauvres de Naples, et il décrit comme ça les relations quotidiennes dans les couples, dans les familles, et on a l'impression qu'il se fait plus aucune illusion sur rien. Et d'une certaine façon, Pasolini se sert d'Eduardo pour découvrir la réalité, pour avoir ce regard comme les paupières arrachées, c'est-à-dire un regard d'une lucidité absolue sur la réalité. C'est à la fois terrible, les pièces d'Eduardo, et en même temps, c'est très drôle.
Alors, il y a des morts le questionnement qu'il y a autour de la mort, il y a des morts qui planent aussi au-dessus de la pièce, et notamment l'assassinat de Pasolini lui-même, auquel vous faites directement référence. Je propose d'écouter Eduardo De Filippo parler en italien.
Ci troviamo in questo momento che è scomparso e poi in una maniera così crudele. No, perché io so distinguere morti da morti e vivi da vivi. Pasolini era veramente un uomo adorabile e indifeso.
Alors Eduardo De Filippo nous dit que Pasolini est parti d'une manière si violente. Je vais distinguer les morts des morts et les vivants des vivants. C'était un homme adorable mais sans aucune défense. C'était une créature angélique que l'on a perdue. Nous n'avons plus l'homme mais nous avons le poète. Et même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui vont enfin comprendre son message. Cela nous aidera beaucoup. Pas besoin de rajouter autre chose.
Oui, c'est une interview de la télévision italienne le lendemain de l'assassinat de Pasolini. Et quand on voit les images, on voit bien qu'Eduardo était bouleversé par cette nouvelle, vraiment. Et il avait les larmes aux yeux en disant tout ça. Juste après, il a écrit un très beau poème sur l'endroit, sur la plage d'Ostie, où Pasolini a été assassiné, où il y a des gens qui avaient posé quelques pierres, quelques cailloux à l'endroit où on avait retrouvé le cadavre. Et Eduardo a écrit un poème pour dire « Ces pierres, c'est pas des belles pierres, c'est des cailloux qu'ils ont trouvés là, mais il faut les laisser toujours à cet endroit-là, parce qu'elles seront polies par le soleil, elles seront polies par le vent, elles seront polies par la pluie, et ce sera comme une pas un monument, ce sera comme une chose que des pauvres gens ont fait pour ce poète. Et évidemment, en italien, pour dire l'expression française qu'on emploie des fois, on dit c'est un pauvre diable pour quelqu'un voilà qui est un peu pauvre, et on dit un pauvre Christ. Et bien sûr, Eduardo retrouve cette expression italienne, un pauvre Christ, en parlant de Pasolini, parce que c'est vrai que lui, spontanément, avec son catholicisme napolitain, traditionnel, naïf, humble, tout d'un coup, il voit en Pasolini une sorte de figure christique.
Alors, d'autant plus que beaucoup d'incertitudes planent autour de l'assassinat de Pasolini. La lumière n'a pas encore été tout à fait faite.
Peut-être qu'on ne le saura jamais. Toutes les hypothèses ont été faites. Les services secrets italiens, la mafia, des amants, des jeunes qui l'auraient rencontré ce soir-là. Il y a toutes sortes de théories. Ce qui est très intéressant, je trouve, avec ce texte, donc plutôt autobiographique qu'on joue, c'est qu'on voit, parce qu'il y a des gens qui imaginent que la vie de Pasolini devait fatalement arriver jusqu'à son assassinat. Il y a même des gens qui disent qu'il a fait exprès de se faire assassiner. Les gens ont l'impression, comme son dernier film, le dernier film qu'il a tourné, c'est Salaud ou les 120 journées de Sodome, d'après le Marquis de Sade, et qui est un film terrible sur un univers qui est comme un camp de concentration, en fait. On a l'impression que toute son œuvre devait fatalement se terminer dans la noirceur et l'horreur et la terreur absolue. Et donc, c'est très intéressant de faire entendre ce texte qui est un texte joyeux, solaire, qui est rempli d'utopie et d'espoir, et qui est drôle aussi. Et c'est le film qui devait tourner après Salaud, ce qui est une chose très extraordinaire. Les gens ne le savent pas, ça.
Merci à tous les deux d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci Laurent Poitrenaud. Je rappelle que l'on vous entendra le 17 juillet à 20h sur France Culture, mais aussi pour le public d'Avignon en direct du musée Calvé, dans une fiction de Sophie Haute-Picon, adaptée du texte de Thomas Bernard, Mépris littéraire. Quant à vous, Irène Bonneau, votre spectacle itinérant Amitié est joué avec Jacques Mazeran, Martine Chambachère et François Château dans le cadre du festival In jusqu'au 23 juillet. Quelques dates ce soir à l'espace Baron de Chabert à Barbantane, demain à la salle des fêtes de la Pastourelle de Saint-Saturnin.
Η Ανατολή αλαφιάζεται και η Δύση μια φλόγα και τραβάει στα μεσουράνια. Λύκοι λαοί τροχίζουνε τα μίση, τα για τα γάνια. Η Ανατολή αλαφιάζεται και η Δύση μια φλόγα και τραβάει στα μεσουράνια. Λύκοι λαοί τροχίζουνε τα μίση, τα για τα γάνια. Του βαρβάρου το ξέσπασμα αιώνες γιγαντεμένο μας το ξαναδίνουν. Ωκεανοί, καστροκάραβα, γοργόνες και καταπίνουν. Για ποιους δυνάστες και για ποιες κορώνες στις γης δουλεύουν τα έγκατα, ποιοι μάγοι. Τρέμουν τα πυργοκάραβα, οι λιμόνες και τα πελάγοι. Στρέγοι. Στρέγει τον ήρου, στρέγει τον ήρου, το όνειρο και πάει με το σαετούς αερόπλανος Μαονίκη, ο άνθρωπος κύριος του Γλαυκού σκορπάει και εκεί τη φρίκη. Thank you. όποια η ψυχή του κι όποια φιλή του δίνει το αίμα του κρατιέται στα γαλινά τα κατατόπια και συλλογέται. Πατέρας, μηνύτρα πλούσιας βλάστησης η λάβα. Πώς θα πιαστεί το πλάσμα από το τέρας. Ποιος ξέρει, τράβα. Κι αν κάποιος αρκωθεί, όνειρο μεγάλο. Και κόσμο νέο την άξει τρικυμία και σηκωθεί κι απάνω από το σάλο η Ευρώπη. Μία, Europe, one, Europe, Europa, Aina.
C'est Europe par Katharina Fotinaki qu'on entendait, extrait de Titsika, les cigales qui nous ont quittés aujourd'hui avec le vent justement de la cour Calvé. Katharina Fotinaki sera en concert à Avignon dans le cadre du Festival des musiques du monde au Collège Joseph Vernet mercredi prochain en duo avec Evie Pilipou. Il est 13h30 sur France Culture. Si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie de la grande table d'été avec pour invité la metteuse en scène et plasticienne Masha Makayev. Une voix dans une cabine qui chuchote des souvenirs de petites filles, un grand chien empaillé, une poire gigantesque, des squelettes parés comme des rois. Voilà comment Masha Makayev nous propose d'entrer dans le monde de Lewis Carroll. Mais attention, ce n'est que la première porte, l'exposition, troubles faites, collections curieuses et choses inquiètes. Car ces mots rebondissent aussi sur scène, musique mélodieuse, bilingue, very much out of the way dans le spectacle Lewis versus Alice. Et en bouquet final, un livre, Zone Céleste, tout juste paru chez Actes Sud. Masha Makayev est aujourd'hui notre convive pour le portrait de la grande table d'été. On arrive avec des bruits étranges, Masha Makayev. Bonjour.
Bonjour. C'est la composition de Christian Sébille qui est venu me prêter main forte dans l'exposition et qui a composé une partition sonore pour le mur des oiseaux.
Partition sonore qui accompagne l'œuvre plastique. Racontez-nous ces oiseaux exposés sur des étagères.
Oui, c'est un mur d'oiseaux et avec à l'intérieur d'une volière où vous êtes conviés à vous asseoir pour la contemplation d'abord et l'écoute et vérifier d'une certaine façon dans cette célébration, vérifier que les choses soi-disant inertes, immobiles, ont tout d'un coup à bien les regarder avec une attention particulière, une disponibilité, quelque chose se produit de l'ordre du mouvement. C'est-à-dire que c'est une chose que je partageais avec Agnès Varda. C'est parmi les secrets que l'on avait, c'était cette réflexion sur la presque immobilité des choses. Alors elle, bien sûr, au cinéma, cet immense cinéaste. Et puis, dans l'atelier, les pauvres choses qui nous entouraient, je lui disais qu'elle est célébrée, elle se mettait à exister dans une sorte de mouvement.
Alors, Masha Makayev, ces objets inanimés, c'est une des portes d'entrée dans le monde de Lewis Carroll. Oui. Et en même temps, dès la première salle, en tout cas de l'exposition, il y a cet appel à l'enfance dans cette cabine un peu close où on peut justement tendre l'oreille et essayer de retrouver d'abord l'enfant en soi pour réussir à pénétrer dans ce monde des objets, un monde inanimé et aussi assez lugubre. C'est aussi des squelettes, aussi beau soit-il.
Oui, mais c'est une célébration, c'est une fête. C'est une fête trouble, mais c'est une fête. C'est d'abord quelque chose qui est une traversée dans une maison. C'est-à-dire Nathalie Cabrera qui m'a dit « La maison est ouverte, allez-y, installez-vous. » Et cet espace maison induit quelque chose de particulier. Déjà, de l'écouter, de la regarder, de retrouver sa peau, sa première peau, et d'aller ouvrir des portes qui étaient jusque-là condamnées, et déjà d'y sentir il y a déjà des fantômes, il y a déjà quelque chose, c'est pas, il y a une archéologie déjà quelquefois. Et après, on peut transformer des espaces. J'ai eu ce droit-là et poser des couleurs. Et après, évidemment, la ronde des objets, des sons et bien sûr, il est question d'une traversée de l'enfance. Avec, j'y ai invité Lewis Carroll, c'est bien le moins. Aussi, mon frère Georges, qui est un de ces êtres aussi qui a conservé à l'intérieur de soi le regard de l'enfance définitive, presque emmuré en lui. Et voilà, je les ai conviés et pour raconter l'incertitude et l'inquiétude de ce que certains disent être passé, mais qui en fait pour d'autres ne passe jamais. L'enfance, c'est un point de vue sur le monde qui demeure, qui est à la fois en alerte tout le temps et qui est très exigeant toute la vie. Et voilà, c'est aussi écouter les artistes qui sont comme ça et aussi les êtres qui sont restés à ce moment-là de l'existence, et ils ont beaucoup à nous apporter.
Alors dans ce monde justement, dans ce monde relativement instable sur le plan temporel, dans un monde onirique qui est celui de Lewis Carroll, on a quand même quelques repères qui sont les siens, qui sont des repères un peu obsessionnels. Alice nous dit 7 ans, tu aurais dû t'arrêter à 7 ans, elle a un peu plus de 7 ans, effectivement, et les mots de Lewis Carroll sont posés sur les murs comme une manière de découper l'imaginaire, Masha Makayeff.
Oui, chez Lewis Carroll, il y a évidemment un étonnement, un goût du féeristique, comme il disait, puisqu'il raconte des histoires. Hein, mais ce qui me semble important, c'est l'incertitude de l'enfance. C'est l'inquiétude première qui va rester, qui va persister, et qui nous fait regarder le monde différemment. Et peut-être même jusqu'à une inquiétude de la métamorphose, notamment, du regard des adultes. Mais aussi une certaine imposture que l'on fait aux enfants, qui est de leur raconter que le monde est clos, quelquefois, est assez protégé. Et pour certains de ces enfants, le contact, le choc avec le réel va être terrible. Et le personnage d'Alice, notamment, mais c'est déjà Lewis lui-même, et Lewis, c'était Charles Ludwig Dodgson, c'était ce garçon qui est le troisième d'une fratrie de 11 dans l'époque victorienne.
Qui lui-même avec avait ce rapport particulier aux objets.
Ah oui, oui.
Puisque
oui,
les objets sont votre porte d'entrée.
Oui, il s'entourait. Il a vécu 47 ans à Oxford et quand il est passé de l'autre côté du miroir, alors moi j'ai beaucoup, beaucoup rêvé là-dessus, sur le fait qu'on vide les ateliers après la disparition des artistes, on vide les lieux qu'ils ont, qui sont leurs propres paysages, qui sont vraiment aussi leur création. Et voilà, j'ai imaginé aussi le recevoir comme pour lui dire, ben voilà, tes objets ont leur place à nouveau dans cette maison.
Alors dans cette maison et aussi dans vos spectacles, alors à la fois on retrouve les mêmes supports d'une certaine manière puisque l'exposition est aussi sonore. Le monde de Lewis Carroll, quoique littéraire, quoique fait de mots, est un espace très visuel et un espace extrêmement sensoriel et sonore.
Oui, il y a la part plastique bien sûr, mais les mots eux-mêmes sont une chose plastique pour Lewis Carroll. Sans arrêt, il brouille le sens et le son. C'est pour ça que dans le spectacle, on fait entendre la langue anglaise, c'est bien le moins, parce que cette sonorité, même si d'aucuns ne la perçoivent pas le sens, peu importe. Ça contient déjà un véritable univers plastique. Et puis le sens des mots, c'est quelque chose qui lui importe. Il dit autant d'auteurs, autant de sens à autant de mots. Là aussi, une incertitude de la langue, une incertitude du sens. C'est la force poétique de cet auteur, vraiment.
Qui va jusqu'à la création d'un langage. On va écouter un extrait de Lewis versus Alice.
Oh, surgis donc du passé obscur. Alice, enfant de mes rêves, dans une tentative désespérée d'inventer une nouvelle démonologie, moi, Charles Ludwig Dodgson, j'ai envoyé mon héroïne, la tête la première, au fond d'un terrier de lapins, sans avoir la moindre idée de ce qui allait advenir ensuite. Would the fall never come to an end?
C'est dans ce monde bilingue, Masha Makiev, que vous avez décidé de nous plonger avec cette optique à la fois, d'une certaine manière, du biopic, pas du tout traité comme un biopic, mais en tout cas qu'il existe, Lewis Carroll, comme un personnage parmi les autres, et ce prisme aussi qu'il existe par son univers, et donc pas tellement dans sa réalité non plus.
Oui, c'était
un pied dedans, un pied dehors.
Oui, c'était en fait une énigme, l'énigme de son œuvre, mais aussi le personnage énigmatique qui était Charles Dish Dodgson, qui de son vivant devient ce mythe, qui se dresse devant lui et qui à la fin de sa vie le rejette, Lewis Carroll. Et qui est-ce, après tout? Qui est-ce? Et comment en est-il arrivé là à nous interroger sur le rêve? Où en sommes-nous de notre rêve? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes dans le rêve de quelqu'un d'autre? Alice se préoccupe beaucoup de ça. Elle veut être dans son propre rêve. Et quand on lui dit, mais vous savez, vous êtes dans... En fait, vous n'existez pas vraiment. Vous êtes dans le rêve du roi. Et si le roi se réveille, vous n'existerez plus. Vous serez soufflé comme une bougie. Voilà une espèce d'anxiété première, une interrogation pour toute la vie, mais qu'à ce moment de l'enfance, on se fait. Et Lewis, il nous met à cet endroit-là. Mais il fallait en savoir un peu plus sur lui. Et moi, quand je monte un spectacle, j'ai besoin d'avoir des accroches personnelles. Et c'est vrai que dans sa vie, ce monde clos, il a été élevé dans un presbytère, loin de tout, avec une sainte mère de femme et un père archidiacre et une fratrie très nombreuse. Il était bègue, il était demi-sourd, il était gaucher. Il était assez décalé. Bien que brillant, il était assez décalé, mathématicien, logicien, très bientôt, 47 ans à Oxford, mais excentrique, et s'interrogeant sur des choses dans le monde, sur les acteurs enfants, un des premiers photographes, et allant aussi dans les ateliers des artistes. Et c'est un homme décalé, et il est voué à une carrière ecclésiastique, et puis son amour du théâtre le fait se décaler. Et en même temps, qui est-il? Et lui-même s'interroge toujours sur l'incertitude de sa propre personne. Et comme il a un surnaturel très très large, les Victoriens ont un surnaturel beaucoup plus large que le nôtre, puisque ça va bien sûr depuis les fantasmagories de la Bible jusqu'aux elfes, aux ectoplasmes, au spiritisme. Tout ça est sur un même pied. Il est dans un autre monde aussi. Il est ici et là et il joue sans arrêt de ce reflet-là.
Alors vous aussi, vous jouez de ce reflet, Masha Makiev, puisque pour nous raconter l'histoire de Lewis Carroll, personnage lui-même de sa propre œuvre, vous le transcrivez en langage, justement dans son langage, à savoir un jeu de double, toujours, un jeu de miroir, comme celui d'Alice. Et finalement, il revisite ce chemin-là, qui est celui d'un imaginaire dédoublé, et avant tout dédoublé par la langue. Racontez-nous comment vous avez travaillé justement sur ces deux langues, sans que personne ne soit exclu en tant que spectateur de cette musique.
Non, il fallait bien sûr ne laisser personne sur le chemin, c'est une chose qui me ferait horreur. Mais je voulais aussi qu'on ait la jouissance de la langue, de l'une et l'autre, et la façon dont elles se répondent. Ces deux approches très différentes, et la sonorité du langage poétique de Lewis Carroll, c'est bien sûr, il y a des traductions très heureuses comme celle de Jacques Roubaud, celle d'Aragon et d'autres, Gattegno, etc. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont vraiment ce sens de la traduction et qui font entendre. Les surréalistes ne s'y sont pas trompés de ce point de vue-là, mais on ne pouvait pas se décoller de cette langue anglaise. Donc, sans arrêt, il y a évidemment le texte qui apparaît graphiquement dans le décor, comme ça, sur la grande volière. Il s'imprime et on le lit. Il se répond, notamment dans La chasse au Snark. Et puis, il y a aussi le Jabberwocky, qui, lui, est une langue absolument inventée.
Alors là, on n'est plus ni dans l'anglais ni dans le français.
Absolument. En anglais, n'y comprend rien. Ça participe de l'imaginaire. On attrape la langue comme un matériau sonore très plastique et très beau. Et il faut aussi lâcher prise. Il faut lâcher prise parce qu'il n'est question que de rêves. Il n'est question que de choses extrêmement éphémères. Les mots se disent et échappent. Et ils sont là pour ce qu'ils font entendre, et leur sonorité et le sens, lui, est très mouvant. Et c'est bien ça aussi l'inquiétude d'Alice, qui cherche à savoir ce que veulent dire les choses et à décrypter le monde.
Et on comprend que ce langage-là n'est pas finalement plus compliqué à comprendre que les autres, puisqu'il s'accompagne, il accompagne une sorte de folie de la reine, une folie sonore.
Oui, il faut. Le monde est avant toute chose. Il faut le percevoir plutôt que le comprendre, le sensible avant l'intelligible. Et ça, je crois que c'est le propre de tous les grands poètes, et notamment Lewis Carroll là-dessus.
Alors après, oui, c'est un monde. Le monde carolien n'est pas du tout un monde pour enfants très facile. Lui, il fait d'un personnage de petite fille le centre, l'héroïne d'une histoire, mais avec un véritable point de vue qui n'est que le sien, après tout. Parce que lui, on a l'impression qu'il s'est arrêté à ce regard-là et qu'il le maintient et que c'est quelque chose de l'ordre d'un manifeste, regarder le monde à cet endroit-là. Et c'est pas une chose facile.
Alors à travers justement la mise en scène, on retrouve aussi quelque chose d'un lien à la musique, à la musicalité. Il y a des chansons...
Oui, moi je suis entourée dans cette traversée, entourée d'artistes magnifiques, puisqu'il y a Rosemary Stanley qui chante, il y a Clément Griffaud qui est un pianiste magnifique, il y a Les Lumières de Jean Bellorini, il y a le son de Sébastien Trouvé. On a vraiment avancé ensemble plastiquement, et puis j'ai des acteurs qui sont pour la plupart bilingues. Il y a Jeffrey Carey que vous avez entendu, Caroline Espargilière, Vanessa Fonté, Ian Peters et Geoffroy Rondeau qui ont aussi, on a beaucoup travaillé sur les inflexions de la voix, sur des nuances d'inflexion, sur aussi cette façon de, sur toutes les nuances de l'étonnement. Et dans un rêve, il faut aller vite, il faut vite le décrypter parce que d'une seconde à l'autre, les choses vous échappent. Et après tout, le monde de Lewis Carroll, c'est celui-là. Il est assez inquiétant de ce point de vue. C'est-à-dire que vous avez à peine le moment de l'émerveillement que déjà les choses se métamorphosent. Et Lewis Carroll, dans sa vie, et Charles Ludwig Jackson, dans son enfance, probablement, ont-ils été très inquiétés par la métamorphose. Qu'est-ce que c'est ce corps qui change? Qu'est-ce que c'est que de se transformer sans arrêt? Les conseils de la chenille sont là pour nous dire, regardez, vous n'êtes qu'un être en métamorphose tout le temps, rien n'est certain. Et cette appréhension du monde, il fallait que le spectacle lui-même, plastiquement, en rende compte.
Alors d'autant plus qu'à chaque personnage s'ouvre un nouvel univers qui le comprend complètement, à savoir une nouvelle manière de s'exprimer, une nouvelle manière de se vêtir, une nouvelle manière de se mouvoir avec l'élasticité de la chasse au snark. Sa vélocité n'est pas la même que l'agitation du lapin.
Oui, c'est très juste, c'est ça. C'est des mouvements rythmiques, des moments. Alors on passe d'un rêve à l'autre et en même temps l'arrivée des souvenirs de Charles ou de Lewis et cette confrontation entre Charles et Lewis et l'arrivée des souvenirs, est-ce qu'on est vraiment sûr d'avoir vécu sa vie? Est-ce que ça n'est pas une fois qu'on est mort, parce que Charles arrive et dit oui voilà je suis mort, je suis là devant vous comme un peu spectral, pas tout à fait un ectoplasme, et il s'interroge sur on en est où de notre rêve? Est-ce que notre vie, on l'a vraiment rêvé? Et est-ce que nos souvenirs, c'est l'existence de quelque chose? Et qu'est-ce qui existe vraiment? Et quelquefois, c'est les choses les plus éphémères qui existent profondément. Et lui, il s'interroge sur ce que c'est que le passage de la vie aussi. Donc il fallait qu'avec les acteurs, on rende compte de cela avec la musique, avec la lumière, on rende compte des bascules dans ce que sont les souvenirs de Charles et de Lewis, l'invention aussi de ces récits, parce qu'il dit toujours « je vais vous raconter une histoire ». Et en même temps, on est dans un rêve. Donc le scénario et la puissance de ce lieu psychique, tout d'un coup, doit nous saisir. Et il n'a qu'un temps, et hop, il se métamorphose et on passe d'un rêve à l'autre.
On écoute la chenille.
Oui.
Pourquoi ça?
Bien à vous de me dire qui vous êtes.
Keep your temper.
C'est tout.
La chenille, elle nous emmène dans son rythme, dans ce temps distendu. Mm-hmm. C'est aussi ce jeu sur les proportions, sur les échelles,
bien sûr,
l'espace-temps, oui, qui est perpétuel à la fois dans l'œuvre et que vous avez dû transcrire sur la scène. Quelle difficulté est-ce que ça a pu entraîner, ou quel parti pris, Maché Makaïef, en tout cas en ce qui concerne la structure de la narration, puisqu'il faut quand même raconter une histoire, bien et qu'en sûr. Réalité ce sont sans cesse des univers qui arrivent avec des dimensions différentes.
Oui, mais il y a aussi le plaisir littéraire des titres, plaisir littéraire des phrases, de la traduction des mots qui arrivent et qui disparaissent. Et donc le spectacle est construit en quatre crises. J'ai emprunté le mot crise à la chasse au snark. Et donc il y a quatre moments comme ça où alternent les souvenirs et les rêveries de Lewis, mais aussi vraiment des citations, hein, les dialogues et les personnages qu'il a inventés.
La chenille, racontez-nous la chenille, ma chère.
La chenille, c'est vraiment un moment hallucinatoire parce que on voit Alice qui voit un champignon, qui goûte, qui respire des fumées parce que la chenille elle-même fume, et il y a une bascule dans un monde halluciné. Et elle ne sait plus où elle en est. Elle ne sait plus. Donc, il y a des disproportions, comme dans un état, l'état second quand on prend des produits. Je pense qu'elle fait cette bascule-là dans un monde hallucinatoire. Donc, après, il y a un jeu plastique avec les objets, bien sûr, et il a fallu en rassembler beaucoup, beaucoup avant les répétitions, et la confrontation, c'est vraiment des compagnons de jeu, des acteurs, des vases trop grands, des choses trop petites, des portes dans lesquelles on ne peut pas passer. Tout ça, c'est assez important parce que il me semble que chez Lewis Carroll, et ça, c'est une chose que je partage profondément avec lui, la réponse à la dévastation, ou la réponse à l'incertitude du monde, à la difficulté à savoir où on en est dans nos existences, c'est, je pense, pour moi, la fantaisie, l'excentricité. En tout cas, le spectacle veut aussi, et on a voulu tous ensemble faire l'éloge de l'excentricité anglaise, notamment, et poète excentrique anglais, et aussi dans la musique pop et dans ce choix de la musique. Il y a les chansons des Moriarty, qui sont un groupe que j'aime infiniment,
Et il n'y a pas que Lewis Carroll, d'ailleurs, puisque vous revisitez aussi la tradition anglaise, ses comptines et son théâtre. Je vous propose qu'on écoute Hickory Dickory Dock, que vous avez légèrement détourné.
Je me souviens, une ferme comme une île, au milieu de l'océan des blés, agitée par les brises errantes du matin, ces jours bénis où je suis né.
Alors la célèbre comptine Hickory Dickory Dock, l'histoire justement, oui, est à la fois retravaillée. C'est l'esthétique anglaise, c'est dans cette culture-là que s'inscrit aussi l'univers d'enfance de Lewis Carroll, mais oui, il est détourné, contourné.
Oui, c'est-à-dire qu'ça vient participer. Nos propres souvenirs viennent se réimprimer. Et là, on est dans le presbytère de Daresbury où Charles Ludwig Dodgson, plus tard Lewis Carroll, est né, avait dans une très nombreuse fratrie. Et c'est vrai, comme accroche personnelle, la solitude des enfants dans une immense fratrie, dans un vase clos religieux, et où on ne sait pas où commence et où finit le monde, on ne sait rien du monde qui entoure. On sait que c'est là qu'on est un peu enfermé dans un bocal étrange, et il y a une musique un peu inquiétante de l'enfance aussi. Alors on raconte des histoires pour se rassurer, puis pour faire rire l'autre et pour s'amuser. C'est bien ce qu'a fait Lewis Carroll dans toute son enfance. Il inventait des histoires, des jeux. Il avait un théâtre de marionnettes pour ses frères et sœurs. Mais je voulais faire entendre la musique un peu inquiétante et la solitude de certains enfants dans une très grande fratrie qui aurait plutôt tendance à vous enfermer dans quelque chose.
Et dans le jeu, dans les citations, les allusions à Shakespeare, dans le jeu aussi des comédiens, il y a cette tradition anglaise que vous reprenez à votre compte. Est-ce que...
Ah oui, on joue Shakespeare, bien sûr. On joue Shakespeare comme
des amateurs éclairés jouaient Shakespeare comme on joue Shakespeare dans les familles bourgeoises comme ça, où on rassemble. Et en même temps, ce qui est très étrange, c'est que la langue de Shakespeare, même au second degré, sans arrêt, comme dans un rêve, il y a quelque chose d'absolument splendide, et puis quelque chose qui se retourne, et il y a le fou qui fait basculer l'humeur. Et là aussi, le théâtre, c'est le lieu de l'incertitude, c'est le lieu aussi de la rêverie, c'est le lieu profondément de l'éphémère. Donc c'est raconter Lewis Carroll, c'est aussi raconter notre existence au théâtre.
Est-ce que vous aviez ce désir, Macha Makiev, en tant que metteur en scène, de finalement faire un spectacle anglais, d'aller puiser aussi votre inspiration là-bas, une sorte d'énorme renouvellement dans le jeu des acteurs, dans la présence de la musique live, de la chanson?
Mais tout à fait, vous avez absolument raison. Et il y avait aussi le travail sur l'adresse. Moi, j'ai toujours été fascinée par l'école anglaise du jeu, qui est une espèce de frontalité avec le public. Et comme une obligation pour le public de basculer dans le spectacle, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez eux.
Alors racontez-nous de la chasse au snark, il y a des jeux d'acrobatie avec une simple échelle qui est tantôt toboggan, tantôt échelle, tantôt lieu un peu inquiétant.
Oui, il y a de la glissade, parce que forcément, Alice bascule et sans arrêt dans le rêve, on glisse quelque part, on est emporté et c'est une chute. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc dans le spectacle et dans le décor, qui est comme un grand objet, une grande boîte à jouer. Et il y a quelque chose de l'ordre de la glissade, il y a les étages, il y a des trappes et quelque chose qui traverse l'endroit. Il y a quelques portes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui laisse la traversée du regard et presque du vent. Oui.
Merci beaucoup. Macha Makiev, vous parlez de vent et il se lève justement. Je rappelle que votre livre Zone Céleste vient d'être publié chez Actes Sud. Le public d'Avignon peut aussi aller voir l'exposition Troubles Fêtes, collection curieuse et choses inquiètes à la maison Jean Villard, ainsi que votre spectacle Lewis versus Alice, présenté dans le cadre du In à la Fabrica jusqu'au 22 juillet. Quant au non-festivalier, ils pourront le voir sur petit écran puisqu'il sera également diffusé sur Arte mercredi à 22h40. Quant à nous, je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été, toujours en direct et en public de l'Université Pasteur d'Avignon, pour parler de textes classiques, de transmission et faire le portrait de Charles Berling. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Pascaline Bonnet, Alexandra Brouillet, Chouchane Gergaillon, Lou Lejoli et Julien Rosa. À la réalisation, Marie Placé, à la technique, Olivia Branger, Christophe Goudin, Nicolas Deparaff et Jean-François Georges. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.